Alors ce matin, j'ai une question. Si je vous pose une question, si je vois, il y a une ampoule au mur, et on voit tranquillement que l'ampoule commence à... Vous savez, des fois, les ampoules vont... soit qu'ils s'éteignent, ils s'allument. Fait qu'on voit que l'ampoule, il va falloir la changer. Alors, ma question, combien de chrétiens peuvent-ils changer? Combien que ça prend de chrétiens pour changer une ampoule? Question simple. Je serais surpris comment vous pouvez avoir des réponses. Alors, si on demande, si on pose la question à des pentecôtistes, ça va prendre 5 personnes. Une personne qui change d'ampoule, puis 4 autres qui prient contre les forces des ténèbres. Si on pose la question à des chrétiens baptistes, il y a une personne qui va changer l'ampoule, puis il y a 3 comités de 3 personnes qui scrutent le feuillet d'instruction si tout est conforme. Si on pose la question à des chrétiens qui sont frères, qui vont dans une église de frères, ça n'en prend 0. Pourquoi? Parce que, de toute façon, la lumière va s'éteindre à un temps prédestiné, et après ça, on la changera. Si on pose la question à des chrétiens méthodistes, qui vont dans des églises méthodistes, on ne sait pas combien de chrétiens que ça prend pour changer l'ampoule, parce que même s'il n'y a pas de lumière, la Bible dit qu'on est une lampe dans le monde. Si on pose la question à des catholiques, ça en prend 0, parce qu'eux autres vont s'éclairer à chandelle. Et sixièmement, si on pose la question à des Amish, ils vont dire, c'est quoi une ampoule électrique? Alors, seulement pour une question qui est très, très, très simple, comment il peut y avoir de réponse? Si je prends une autre question, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle et aller au ciel? Et encore là, on serait étonné, comment il peut y avoir de réponse? Comment que on pourrait avoir de réponse? Si on demande ça à plusieurs personnes, tellement qu'aujourd'hui, qu'il y a des religions, qu'il y a des sectes dans le monde, on pense seulement à la religion catholique romaine, alors qu'au-dessus de 1 milliard de personnes, on pourrait poser la question à des musulmans qui sont eux autres aussi plus que 1 milliard de personnes. On pourrait poser la question à des hindouistes, qui sont à peu près, c'est sûr, mes statistiques datent de plusieurs années, 900 millions. Des gens sans religion, qu'on parle d'au-dessus de 700 millions. Des chrétiens indépendants, 400 millions. Religion chinoise, 384 millions. Bouddhistes, 375 millions. Protestants, 375 millions. Des religions tribales, 250 millions de personnes. Des chrétiens orthodoxes, 220 millions. Des athées, 150 millions. Religion africaine, 100 millions. Des anglicans, 80 millions. Des sikhs, 25 millions. Des juifs, au-dessus de 15 millions, et j'en passe. Alors, voyez-vous comment que seulement cette question-là, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle et aller au ciel, combien de gens pourraient avoir différentes réponses? Selon les différentes religions, selon ce qu'ils peuvent penser, selon les différentes doctrines. Pourtant, c'est une question existentielle. Ce n'est pas une question qui se discute régulièrement. Puis il y a bien des gens qui ne le savent pas non plus. Ça reste que c'est une question qui est très importante. Il y avait comme ça un évangéliste qui était dans une petite ville des États-Unis. Puis, il l'avait invité dans une église pour faire une prédication. Alors, il avait invité l'évangéliste pour faire la prédication. Et dans ce temps-là, quand on voulait communiquer, il fallait envoyer des lettres. Et l'évangéliste est en train de faire une lettre, de remplir une lettre, d'envoyer à quelqu'un. Et il s'en va dans la petite ville comme ça, puis il rencontre un jeune homme, puis il lui demande, « Pourrais-tu me dire où est le bureau de poste? » Parce que j'ai une lettre à m'aller, ça me prend un temps, tout ça. Alors le jeune homme lui dit, « Oui, bien écoutez, vous allez aller à telle place, tel endroit, vous virez à gauche, vous virez à droite. » Alors l'évangéliste était très, très content. Alors, il dit au jeune homme, il dit, écoute, j'ai été invité justement à cette église-là. Si tu veux venir ce soir, il dit, je vais te montrer comment aller au ciel. Alors, le jeune homme lui répond, il dit, non, merci, ça ne m'intéresse pas. Parce que vous m'avez posé la question, comment, vous n'êtes même pas capable d'aller au bureau de poste. Alors, comment pouvez-vous me montrer comment aller au ciel? Alors, voyez-vous. Alors, nous allons tourner dans le chapitre. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 1. Et c'est un texte très, très, très important. Alors, l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 1. Et c'est l'entretien que Jésus a eu avec Nicodème. Et le titre du message de ce matin, c'est « Entretien avec Nicodème ». Où il est écrit « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. » Si vous ne croyez pas que je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans ce désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et je termine, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors, c'est un texte qui est quand même assez long. C'est quelque chose de très important. Que doit-on faire pour avoir la vie éternelle? Alors, parmi les événements qui entourent le ministère de Jésus, et je vous avais parlé il y a plusieurs semaines que toutes les paroles de Jésus étaient très intéressantes, très enrichissantes, très profondes. On retrouve un célèbre dialogue entre Jésus et Nicodème. Au début de son ministère. Alors, Jésus est au début de son ministère, puis il fait des prodiges et des miracles. Et c'est certain qu'à la suite de ces miracles-là, il y a beaucoup de personnes qui croient, puis qui acceptent le message de Jésus. en croyant qu'il était vraiment le Messie. Parmi la foule qui observait Jésus, il y avait quelqu'un, un rabbin nommé Nicodème, qui avait été très secoué par les observations et qui voulait savoir vraiment qui était Jésus. Qui était Nicodème? Nicodème, c'était un pharisien. Les pharisiens, c'était des gens qui étaient pieux, des gens qui priaient, des gens qui étaient peu nombreux, de la classe moyenne. On dit qu'il y en avait peut-être 6 000 à l'époque de Jésus. C'était des gens qui exerçaient une grande influence sur le peuple en général, même si ces gens-là éprouvaient du mépris envers certaines personnes. Ils formaient un parti minoritaire, puis leur popularité auprès du peuple leur permettait de jouir d'une grande influence au sein du peuple et au sein du Conseil des Juifs, que l'on nomme le Sanhédrin, que je vais vous expliquer tout à l'heure. Alors, c'était des gens qui étaient zélés pour la loi de Moïse. Ce n'était pas nécessairement des prêtres, c'était des gens qui étaient zélés. Des gens rituels, pseudo-spirituels, parce que Jésus a dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites ». Pourquoi hypocrites? Parce qu'il y avait un écart entre leur entre leur enseignement et leur pratique, les conduisant à une certaine hypocrisie. Mais Nicodème n'était pas un pharisien ordinaire. C'était un chef des Juifs. Il faisait partie du Sanhédrin. C'est quoi le Sanhédrin? Le Sanhédrin, c'était un concile gouvernant Israël. C'est un genre de petit gouvernement. Parce qu'Israël était sous l'autorité romaine. Mais entre eux autres, pour le peuple, il y avait un concile. Son origine remonte à peu près aux 60, remonte dans le temps de Moïse. Alors que Moïse avait, sous le Dieu avait demandé à Moïse de rassembler 70 anciens. On voit ça dans Nombre 11, chapitre 11, verset 16. Alors Moïse avait regroupé 70 anciens et plus tard, Esdras a réorganisé ce groupe après l'Exode. Alors, le Sanhédrin se compose de 70 membres et a comme chef le souverain sacrificateur. Alors, c'était des hommes de famille, sacerdotales, très influentes, des hommes choisis parmi des anciens, parmi des chefs de famille, parmi des scribes. Et c'était des gens, comme j'ai dit tout à l'heure, qui avaient une grande influence. On voit ça quand Jésus a été arrêté dans le jardin de Gethsémani. Il n'a pas été arrêté par l'autorité romaine. Il n'a pas été arrêté par les Romains. Il a été arrêté par les chefs des Juifs. Alors, c'est un parti, le Sanhédrin, qui exerce beaucoup de pouvoir dans les affaires civiles, dans les affaires criminelles, dans les affaires religieuses, malgré que c'est seulement les Romains qui ont le pouvoir, qui peuvent décréter la peine de mort. Mais le Sanhédrin a l'autorité pour faire des arrestations. Le Sanhédrin a l'autorité pour intenter des procès, malgré que l'autorité du Sanhédrin, selon les Écritures, se limite à la contrée de la Judée. Alors, c'est un parti, pas un parti, c'est un concile qui gère Israël. Alors, Nicodème vient de nuit vers Jésus. Pourquoi? Pour ne pas attirer l'attention. Parce que Jésus, la nuit, il est moins occupé. Il ne veut pas que les gens sachent qu'il a été voir Jésus. Malgré tout cela, Nicodème a une bonne intention. Alors, il arrive devant Jésus et dit à Jésus, il dit, « Personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Alors, Jésus lui répond, et c'est flatteur, « Personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Mais Jésus ne répond même pas. Jésus ne parle pas de ces miracles. ne parle pas des bonnes œuvres, ce qu'il peut faire pour le peuple, il parle d'une chose, en partant, la nouvelle naissance. Et on devrait être comme cela quand on parle de spiritualité, quand on jase avec quelqu'un. Est-ce que tu es né de nouveau? C'est la clé. Et Jésus connaît nos questions, notre état d'âme, avant qu'on se présente à lui. Puis on le voit ici. Pourquoi? Parce que Jésus répond avant que Nicodème lui pose la question. Nicodème n'a même pas posé sa question. Et Jésus lui dit, « en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Pensez-y, là. Nicodème est très important dans la contrée juive. C'est un homme d'influence, c'est un érudit, c'est quelqu'un qui est très enseigné, c'est un enseignant, c'est quelqu'un d'une position, d'une très grande, une haute position à l'époque, se présente devant Jésus. Et Jésus, immédiatement, voit Nicodème arriver. Et Nicodème n'a même pas le temps de poser sa question, que Jésus sait d'avance sa question. Et il lui dit, « en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » C'est la première chose qu'il lui parle. Il ne parle pas de ses miracles, il ne parle pas, il ne lui dit pas, « Oui, les Juifs, oui, vous allez au temple, il y a des sacrifices. » La première chose, la nouvelle naissance, c'est une vérité, c'est quelque chose de capital. Et la conversation avec Nicodème est très, très importante. Parce que automatiquement, Jésus parle du royaume de Dieu et non du royaume du monde. Il met en question la souveraineté de Dieu, le royaume du salut, le règne spirituel. Et les paroles de Jésus sont très importantes. Première chose que Jésus lui dit, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » C'est clair. C'est la première chose qu'il lui dit. Et Nicodème, naître de nouveau, qu'est-ce que ça veut dire? Mais Nicodème, dans le judaïsme, il y avait 6 façons de naître de nouveau. Et il a continué avec Jésus. Pourquoi? Parce que lui remplissait 4 conditions. Il y avait 2 conditions qu'il n'avait pas. À l'époque, quand les gens qui n'étaient pas juifs se convertissaient au judaïsme, on disait qu'ils étaient nés de nouveau. Les Juifs pouvaient naître de nouveau quand ils se faisaient couronner roi. Alors, les deux premières conditions, ça ne le touche pas. Les 4 autres, quand un Juif célèbre ses 13 ans, il se soumet à la loi de Moïse et devient responsable de ses propres péchés. L'autre, quand un Juif se mariait, on disait qu'il était né de nouveau. Il y a quelqu'un dans la salle qui va probablement avoir la nouvelle naissance d'ici quelques mois. Alors, une autre raison, en devenant un rabbin ou un prêtre, c'est comme si tu naissais de nouveau pour un Juif. Et la dernière, quand tu étais directeur d'une école rabbinique. Puis Nicodème était directeur d'une école rabbinique parce que Jésus lui dit qu'il est un docteur d'Israël. Alors, un docteur d'Israël, c'est comme un docteur à l'université, c'est quelqu'un qui enseigne. Alors, c'est pour ça que Jésus lui dit en partant, il faut que, en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et Nicodème n'est pas tout à fait surpris. Il regarde ça. Par contre, il regarde les conditions que lui, naître de nouveau veut dire, oui, naître de nouveau, ça me dit quelque chose. Mais regardez ce que Jésus lui dit après. Il lui répète, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il rajoute « et d'esprit », il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il rajoute « et d'esprit ». Alors, être né de d'eau, on peut penser que ça signifie le baptême. à être né d'eau. Mais c'est pas ça que ça veut dire, parce que Nicodème n'avait aucune idée du baptême de Jean-Baptiste. Alors, être né d'eau, ce n'est pas être l'immersion du baptême. Être né d'eau, c'est la naissance physique. Mais Jésus met quelque chose de plus. Être né de l'esprit. Oui, être né physiquement, mais être né spirituellement. Alors, puis après ça, il continue Jésus. Ce qui est né de la chair est chair, effectivement, ta naissance physique. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Deux choses différentes. Alors, Nicodème était né juif, mais il devait renaître spirituellement. Alors, les paroles de Jésus ici sont très, très importantes. Les paroles de Jésus ne parlent pas d'œuvre, ne parlent pas de réalisation de l'homme, même si elles sont excellentes. Mérite humain, la naissance humaine, Jésus parle ici d'une nouvelle naissance spirituelle. Alors, c'était quelque chose pour Nicodème. Parce que Nicodème avait tout rempli les conditions du judaïsme pour être né de nouveau. Alors, pour lui, naître de nouveau, c'était retourner dans le ventre de sa mère et tout recommencer. C'est ça qu'il pensait, Nicodème. Et Jésus revient encore une fois. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Troisième fois qu'il parle de la nouvelle naissance. Parce que Nicodème lui a dit, il faut que je rentre dans le ventre de ma mère. Il faut que je recommence au complet. Et Jésus reprend, il faut que vous naissiez de nouveau. Pourquoi? Parce que Nicodème est déboussolé. Il est confus. Un peu comme quand nous évangélisons et nous disons qu'il faut que tu aies une nouvelle naissance. Il faut que tu naisses de nouveau. Quand tu acceptes Jésus, tu nais de nouveau. Et Jésus lui dit, tu es un docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Pourquoi? Parce que, sur le coup, Nicodème a dit, tout avec ce qu'il pensait, avec tout son savoir, il n'était pas capable de suivre Jésus. Et on voit dans le texte que Nicodème ne lui a pas posé plus de questions. D'un certain sens, il refusait ce que le Seigneur lui disait. Il ne voulait pas rebrousser chemin. Avec tout le savoir qu'il avait, toute l'expérience, toute la notoriété qu'il avait. Alors, on voit que Nicodème ne parle plus. L'apôtre Paul a dit, « Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » Et Jésus s'attendait à ce que Nicodème puisse comprendre d'une certaine façon. À cause de sa position docteur d'Israël, et pour Jésus, son incompréhension est inexcusable. Pourquoi? Parce qu'il a étudié l'Ancien Testament. Et Paul dira dans Romains chapitre 10, verset 2, « Par conséquent, leur zèle pour Dieu sans intelligence. » Pourquoi je dis ça? Pourquoi que Nicodème aurait dû comprendre? Si Jésus lui a parlé de cela, c'est parce que Nicodème aurait dû comprendre ce que Jésus voulait lui enseigner. Regardez dans Ézéchiel chapitre 36, verset 24, qu'est-ce qu'il est dit? « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alors, dans l'Ancien Testament, il y avait une référence à ce qui s'en venait. Et pour Jésus, c'est pour ça qu'il lui a parlé de la nouvelle naissance. Il lui a dit, tu es docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Mais Nicodème ne voulait pas. Nicodème refusait d'une certaine façon, ne comprenait pas. Et dans le texte que nous avons lu, Jésus continue, « en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons cru. » Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il dit à Nicodème? Lui, il continue, c'est un discours que Jésus fait là. Voyez-vous, est-ce que vous avez vu que la conversation s'arrête? Nicodème aurait dû poser plus de questions. Ça s'arrête là, comme quand on évangélise. Ça s'arrête là. Nicodème, non, on ne veut pas. Et Jésus continue dans un discours. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons cru. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les disciples. Prenez par exemple les disciples. Les disciples avaient saisi le message de Jésus-Christ. Jean-Baptiste avait saisi le message. Nous disons ce que nous savons. Alors, nous témoignons, nous savons quoi, nous disons, c'est que nous avons ce que nous avons appris du Maître. Et le fait de savoir que Jésus fait des prodiges, des miracles et le Messie tant attendu, nous rendons témoignage de ce que nous avons cru. Alors, nous témoignons devant le peuple. C'est ça que ça veut dire. Alors, quoi? Faut dire, ce qu'on dit, c'est ce qu'on sait. De toute façon, c'est une vérité qui est depuis toujours. Et on rend témoignage de quoi? De ce que nous avons cru, de ce que nous voyons. Mais Paul va dire, l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors, voici la réprimande de Jésus. Il continue son discours. « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croiriez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? » Ça veut dire quoi? Alors, je vous parle de nouvelle naissance. Je vous parle de « tu dois croire en Jésus-Christ, être sauvé ». Mais si tu ne crois pas ces choses-là que je te dis, comment veux-tu croire, mais que je vais t'apporter les choses célestes? Mais lorsque je vais te parler des choses spirituelles, des réalités célestes profondes, du royaume de Dieu, son plan de rédemption, l'histoire de l'humanité, le jugement, le pourquoi des pourquoi, je ne peux pas te parler ces choses-là parce que tu ne saisis pas les choses terrestres. Je ne peux pas te parler des choses spirituelles. C'est ça que Jésus dit à Nicodème. Et continue, dit Jésus. Il dit, « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. » Il dit, « Écoute, là. » Il dit, « Un instant, là. Personne n'est monté au ciel. » Là, vous allez me dire, « Oui, il y a quelqu'un qui est monté au ciel. » Paul a une vision du troisième ciel. Mais ça, c'est après la mort de Jésus. On voit ça dans le Nouveau Testament, mais après la mort de Jésus. Mais quand Jésus parle, il dit « Personne n'est monté au ciel. » Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, ça veut dire qui? Ça veut dire moi, le Fils de l'homme qui était dans le ciel. Alors, les choses du ciel, je peux t'en parler parce que j'arrive du ciel, justement. Il n'y a personne qui peut parler du ciel. On peut visiter la ville de New York, on peut visiter le Walt Disney. On peut même aller dans l'espace, mais on ne peut pas aller au ciel. C'est impossible. On est confiné dans le temps et dans l'espace. Alors Dieu, homme, est descendu du ciel pour être mis sur la croix et pour mourir pour les péchés du monde. Alors l'homme à présent a l'obligation de croire au Messie. C'est ça que Jésus est en train de dire. Et Jésus dit, il parle d'une nouvelle naissance, il parle du péché, il parle du pardon des péchés. Et il continue, Jésus continue son discours. Là, il dit, il parle de lui, de sa personne qui est descendue du ciel. Et il continue, il dit, « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il dit, « Toi, tu es un pharisien. Toi, tu es un docteur d'Israël. » Est-ce que vous voyez la conversation spirituelle entre les deux? C'est des rabbins, là. Parce que Nicodème, il a appelé Jésus rabbin, là. On se parle entre des gens spirituels, là, des gens qui connaissent la loi, là. Et il lui parle des choses. C'est pour ça que c'est dur à comprendre. C'est des docteurs, là. Et Jésus dit, au lieu, c'est très, très, très profond. Il dit à Nicodème, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il dit, moi, je vais te toucher, là. Je vais te parler de l'Ancien Testament. C'est quoi cette phrase-là? Qu'est-ce que ça vient faire? Tu lis ça, tu dis, voyons donc, c'est quoi? Ça, là, c'est l'histoire. Le peuple se plaignait sans cesse dans le désert. Des plaintes et des plaintes, tout le temps des plaintes. Dieu a dit, j'en ai assez, j'envoie des serpents venimeux dans tout le camp. Alors, les Israélites ont imploré Moïse d'intercéder en faveur de Dieu. Et Dieu dit à Moïse de fabriquer la réplique d'un serpent en bronze et de le mettre sur une perche. Alors, les Israélites qui se sont fait mordre dans le désert par des serpents venimeux ont été guéris en regardant le serpent de bronze élevé par Moïse. Moïse a élevé le serpent sur une perche et tous ceux qui avaient été mordus ont été guéris. Parce que vous savez, dans le désert, il y a des serpents venimeux, tu peux mourir. Ça veut dire quoi? Quiconque regarde le serpent de bronze et guéri, ça veut dire quoi? C'est comme une analogie qui veut dire quoi? Quiconque contemple par le seul moyen de la foi le Christ crucifié sera guéri de la morsure faite du péché. Il fait un rapport entre l'Ancien Testament et pourquoi il est venu sur la terre? Alors, voyez-vous le discours de Jésus qui avance de plus en plus, qui explique à Nicodème. Et après ça, on tombe dans un des plus grands versets du Nouveau Testament. Il continue. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez-vous la progression? Il y a une progression de Jésus, mais il n'y a pas une progression de Nicodème, parce que Nicodème ne parle plus. On croit que Nicodème était complètement abasourdi. Et Jésus finit pour dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il continue encore. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il continue encore. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alors, voyez-vous la progression, toute cette concernant l'évangélisation qu'il a faite à Nicodème. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, « Ah, oh, Dieu ne nous jugera pas quand on le verra au ciel. » J'osais avec quelqu'un la semaine passée, puis non, on va aller au ciel, tout le monde va être au ciel, puis tout le monde, on va voir Dieu, puis c'est la fête, puis... Je m'excuse. Amos, le prophète Amos a dit dans le chapitre 5, verset 18, « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? » Si on posait la question à quelqu'un, « Qu'est-ce que tu attends, mais que tu vois Dieu? » Le jour de l'Éternel, c'est le jour que tu vas voir Dieu. Le jour de ton procès, c'est quand tu rencontres un juge, puis là, le juge, t'es en cours, puis là, c'est ton procès, tu rencontres le juge. Mais la rencontre de Dieu, le jour de l'Éternel, il dit, qu'attendez-vous? Qu'est-ce que Amos dit? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours qui gagne sa demeure. appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Ça va mal. On court, il y a un lion qui est en arrière de nous autres. On rencontre un ours. On continue. Puis après ça, on dit, « Ouf, j'ai 2 secondes. » Tu mets la main sur un mur, puis il y a un serpent venimeux. Et Amos continue, « Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? » Ça, c'est quelque chose, ça. Alors, pour terminer, premièrement, Nicodème faisait des bonnes œuvres. Nicodème faisait de bonnes œuvres. C'est un docteur d'Israël. C'est quelqu'un qui était un érudit. C'était une bonne personne. Deuxième chose, il faisait de bonnes œuvres, mais c'était aussi une bonne personne. C'était un rabbin. Ce n'était pas un voleur, un brigand. C'était un homme de bien. Troisième chose, il était religieux. Alors, quelqu'un qui est religieux, beaucoup de personnes sont religieuses. Si on regarde le nombre de religions qu'il y a dans le monde, c'est presque la majorité des gens sont religieux. Et dans certaines religions, il y a beaucoup de vérité. Quatrième chose, il allait au temple. Ça veut dire quoi? Il allait à l'église. Alors, c'est quelqu'un de bien, là, Nicodème. En plus d'être un docteur, et Jésus lui dit, tu es le docteur de la loi et tu ne sais pas ces choses. Très grand reproche. En raison de sa position du docteur de la nation, il n'a pas progressé quand il a rencontré Jésus, là. Il n'a pas conversé avec lui et dire, oui, j'ai vu ça dans l'Ancien Testament, tu me rappelles ces choses-là. Et oui, c'est bon. Moi, je m'attendais à ce qu'il aurait fait ça, là, Nicodème. Il aurait dit, oui, c'est ça que ça voulait dire, OK. Oui, le Messie, oui, c'est bien ça. Malgré les clarifications de Jésus, parce que Jésus clarifie de plus en plus. C'est la même chose quand on évangile, on évangélise. Puis on parle. On s'attend que les gens disent, oui, c'est vrai, oui, tu parles de la mort. Ça se pourrait peut-être que je vais mourir, moi aussi. Jamais personne ne te parle de ça, là. La mort, c'est, personne ne parle de ça. Des fois, les gens pourraient nous répondre, dire, tu parles de Dieu, toi. Tu parles de Dieu, tu es chrétien. C'est sûr que ça ne m'empêchera pas d'aller chercher mon club sandwich à soir au restaurant, là. Non, tu n'as pas besoin d'être chrétien pour ça. Mais nous autres, on parle de spiritualité. On parle de mort, on parle de vie éternelle, on parle du plus tard, on parle d'amour, on ne veut pas parler de guerre, on ne veut pas parler de... Puis on parle avec les gens, puis ils s'arrêtent au lieu de dire, « Ouais, t'as raison, ouais, la mort, ça, oui, c'est vrai, on peut mourir n'importe quand. Ça, t'as raison. Après ça, les guerres, oui, il y a de la guerre pas mal dans les journaux. Hein. Il y a pas mal de guerres. Ouais, ça, t'as... pas tout à fait tort, Jésus prêche l'amour, il ne prêche pas la guerre. Oui, la vie éternelle, oui, tu pourras avoir toutes ces choses-là. La vie éternelle, c'est extraordinaire. Non, les gens ne continuent pas, ils s'arrêtent, comme Nicodème. Et Jésus est obligé d'expliquer, et nous autres, on est obligés d'expliquer le pourquoi. Et c'est là qu'on termine, car Dieu a tant aimé le monde. Jésus a dit, en vérité, je te le dis. Il n'a jamais pris ce terme-là, il ne le fait seulement que dans Jean chapitre 3. En vérité, il le répète tout le temps, il parle de la nouvelle naissance, en vérité. La Bible dit que nul ne vient au Père que par Jésus. Être chrétien, ça peut être ce n'est pas une religion. Être chrétien, c'est une relation avec Dieu. Et Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il est une nouvelle créature. C'est ça, la nouvelle naissance. C'est une nouvelle personne. Quand on suit Jésus, quand on est chrétien, quand tu es chrétien, il me semble te changer un peu. Il me semble que tu n'es plus pareil. Mais non, je suis une nouvelle créature. Je suis né de nouveau. L'Esprit de Dieu m'a saisi et nous donne une nouvelle façon, une nouvelle raison, une nouvelle façon de faire. Nous sommes nés de nouveau. Paul dit, voici, il est une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une intervention de Dieu. Parce que Dieu a fait un miracle dans notre vie. Et le Saint-Esprit nous change. Un nouveau départ, un nouveau cœur, une nouvelle vie en Jésus-Christ. C'est très simple. Ce que je dis ce matin, c'est très simple. Les enfants comprennent. Les gens souvent aiment les choses compliquées. On était dans le rapport d'impôt tout à l'heure, je vous parlais du rapport d'impôt. C'est-tu compliqué un rapport d'impôt? L'informatique aujourd'hui, la technologie, c'est-tu compliqué? Vous achetez quelque chose de technologie, à peu près, il peut y avoir un livre de 250 pages. Mais ce que j'apporte ce matin, c'est très simple, c'est la nouvelle naissance. Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est la seule façon d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Mais non, on veut être, nous autres, on veut le mériter. On veut le mériter, notre ciel. On veut, tu sais, j'aime ça, se monter les épaules, là, puis s'en aller, puis on mérite notre ciel. Parce qu'on essaye de plaire à Dieu, puis on essaye de... Jésus n'a pas parlé de ça. Il n'a même pas parlé de ses miracles. Il n'a même pas parlé de ses miracles. Moi, j'aurais dit, écoute, j'en ai fait 350 aujourd'hui. Il dit, laisse faire mes miracles, c'est pas important. C'est pas important, les miracles. Il a dit ça à Nicodème, il dit, laisse faire les miracles. C'est pas important. Il faut que tu naisses de nouveau. Jésus, c'est la première chose qu'il a dit. Il faut que tu naisses de nouveau. Laisse faire les miracles. Arrêtons de se péter les bretelles puis les épaules puis dire, on va essayer de le mériter, notre ciel. Dieu dit, mérite-les pas. Crois en moi, crois en Jésus. J'ai envoyé Jésus pour te sauver. Tu n'as seulement qu'à faire ça, c'est un cadeau. Je n'ai pas besoin d'argent, ton argent, je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de tes mérites, je n'ai pas besoin de ta réputation. Je n'ai pas besoin de ton travail, je n'ai pas besoin de tes études. Ce que je veux, c'est que tu crois en Jésus. Tellement simple. Il a dit ça à Nicodème, mais Nicodème n'a même pas été capable de saisir cela. Alors qu'il y a des enfants qui sont capables de saisir ça. Moi, j'ai vu des enfants qui ont dit oui, je leur ai envoyé ça comme ça. Il y a des enfants qui ont dit oui. Mais Jésus a dit, soyez comme des petits-enfants. Et je vais revenir à un moment donné sur les petits-enfants pour Jésus. Alors, la nouvelle naissance est un cadeau de Dieu. C'est quand tu te convertis, c'est quand tu dis oui au Seigneur, tu deviens une nouvelle créature, tu nais de nouveau. Et c'est vraiment ce que Jésus a voulu expliquer à Nicodème. Et c'est au début de son ministère. Et déjà, en commençant son ministère, il a dit, c'est ça qui est important, c'est ça que je vais dire à Nicodème. Nicodème va pouvoir aller au Sanhédrin, ils vont en parler, et le peuple va être touché, et le peuple va être saisi de cette doctrine. Et oui, je vais probablement mourir parce que Jésus savait qu'il mourrait, mais ça va être peut-être une petite partie qui vont vouloir me tuer, mais là, tout Israël va se convertir. Puis, vous voyez ce que je veux dire? Au début du ministère, suite à Nicodème. Non, c'est pas ça qui est arrivé. Alors, que ce soit pour un exemple pour nous, que ce soit un exemple pour nous, cet entretien avec Nicodème, comment ça nous fait penser à nos entretiens qu'on peut avoir avec des gens qui ne connaissent pas Jésus. Alors, Seigneur, on te remercie pour cet enseignement.